New York, 1805-1838. La dernière étape d'une vie étonnante. En redire les grandes lignes ? Lorenzo da Ponte, né en 1749, Emanuele Conigliano, dans le ghetto de Ceneda, dans la République de Venise, converti par son évêque, qui lui donne son nom, en 1764, à l'âge de 14 ans, lorsque son père, devenu veuf, veut se remarier à une jeunesse gentille. Études au séminaire de Portoguaro, car c'est le seul moyen pour un jeune homme pauvre d'acquérir quelques cultures. Prêtrise en 1773, il a 24 ans. Arrivé à Venise, où le jeune prêtre, peu prêtre, se fait connaître comme libertin et comme littérateur de talent. Après des tribulations diverses, il est chassé de la Sénérissime République et part pour l'Empire austro-hongrois qui le jouxte. Arrivé à Vienne en 1781, il a 32 ans, et une solide réputation de scandale et de poète le précède. De 1781 à 91, il sera le poète de cour de Joseph II, empereur éclairé du Saint-Empire. La concurrence avec Castille, les intrigues avec Salieri passent pour la postérité au second plan. Le premier, c'est la rencontre de Mozart et coup sur coup, trois livrets qui sont trois chefs-d'œuvre et donnent naissance à trois monuments. Les Noces de Figaro en 1786, Don Juan en 87, Così fan tutte en 90. 91 voit la ruine de cette célébrité, Mozart meurt et l'empereur ne se sent pas très bien et meurt. Da Ponte n'aura pas la même grâce avec ses successeurs. En 1792, pour ce poète épris de sa langue italienne, adieu à la latinité et embarquement pour Londres où ses fortunes seront diverses. Voyage émouvant dans la patrie italienne en 98, retour en Angleterre, difficultés professionnelles et financières, c'est un Da Ponte aux abois qui, le 7 avril 1794, s'embarque à Gravesend, 1805, pardon, 7 avril 1805, s'embarque à Gravesend pour les Amériques. Il a 56 ans, il lui reste 33 ans à vivre. Oui, il aura vraiment été le contemporain de Paisello et de Wagner. Quelle vie attend aux States ce Don Juan vieillissant ? Embarqué donc le 7 avril en Angleterre, Lorenzo da Ponte touche terre à Philadelphie, près de deux mois après, 57 jours exactement, le 4 juin 1805. Un voyage qui lui laissera des souvenirs suffisamment cuisants, mer mauvaise, confort précaire, nourriture détestable, pour qu'il en évalue la durée dans ses mémoires à 86 jours. Il a emporté un violon, une théière, un tapis et une malle de livres. Arrivé aux États-Unis, que faire ? Le pays manque évidemment d'opéra, tout comme de théâtre, que le puritanisme des récents immigrants encourage mal. La littérature italienne est inconnue, donc il ne reste que le commerce. Da Ponte sera épicier. Il essaie de s'installer à New York, n'y réussit pas, et se retrouve dans une petite ville de New Jersey, à Elizabethtown. Épicier à Elizabethtown, Lorenzo Da Ponte. Comme le dit excellemment April Fitzlyon, Da Ponte n'était pas un bon businessman et son élément naturel n'était pas l'échoppe d'un épicier dans une petite ville provinciale en Amérique, mais les grands théâtres et les salons de la capitale et des capitales européennes. Nous pouvons seulement supposer de quelle façon il supporta les premières années d'un exil loin de tout ce qu'il aimait le mieux, le théâtre, le monde de la littérature, l'atmosphère cosmopolite et excitante des villes européennes. De ce qu'il trouva à New Jersey, rien ne lui était familier, excepté les lourdes dettes et les nombreux créanciers qu'il acquit rapidement. Fin de citation. En 1807, il revient à New York, persuadé qu'il y creusera mieux son trou. Il essaie alors de donner des leçons d'italien et se heurte à l'indifférence générale. Sa bibliomania va le sauver. Dans une librairie, il rencontre en effet un certain Clement Clark Moore, qui sera plus tard un savant de renom et un philologue réputé dans la langue hébraïque. Il accueille Da Ponte chez lui, lui procure des élèves de langue et de littérature italienne. Le succès oblige même à fonder une Manhattan Academy for Young Gentlemen. Da Ponte est bon pédagogue, compétent, brillant, enthousiaste. Sa méthode pédagogique, c'est d'apprendre l'italien dans les grands classiques, Dante ou l'Arioste, et non dans les manuels idiots. Ça marche. En 1811, il devient un citoyen américain et en fait, notre héros possède bien des qualités qui font les succès aux Amériques. Énergie sans faille, fraîcheur d'approche envers chaque problème, capacité de se faire des amis, adaptabilité, enthousiasme, amour de la nouveauté, sentiment républicain et démocratique, peut-être appris auprès de la République vénitienne, alors tellement oubliée. Surtout, l'Amérique n'offre rien à Da Ponte sauf une demande implicite qu'il va remplir avec enthousiasme, être l'ambassadeur de l'italianité et de sa langue avant tout. Pourquoi Da Ponte interrompt raconte-t-il une expérience qui marche relativement bien à New York, pour s'exiler dans un bled de Pennsylvanie en 1811, auprès de sa belle famille, les Graal, installée dans la petite bourgade de Sunbury. Un espoir d'héritage, le désir de finir ses jours à la campagne. Toujours est-il qu'il redevient là commerçant à la fortune changeante. N'y a-t-il pas quelque chose de pathétique dans ce destin d'un homme qui, au lieu d'écrire des odes à l'adresse des têtes couronnées d'Europe, fait des factures concernant les saucisses et les pruneaux des habitants d'un petit village du Middle West, écrit encore à ce propos April Fitzline. Au demeurant, les affaires ne marchent pas si mal que cela, si Cadet-Roussel a 3 maisons, d'Aponte à 6 chevaux. Mais on se lasse de tout, même d'un trou perdu, et d'Aponte en 1819 est de retour à New York. Toujours extasié sur les dates et les années, d'Aponte est de retour définitif à New York en 1819. Il a exactement 70 ans, il lui reste près de 20 ans à vivre. Un de ses fils meurt de consomption, comme il était d'usage, d'Aponte, lui, se porte comme un charme. Il en a marre, passez-moi l'expression, de comptabiliser pruneaux et saucisses, et il veut retrouver ce qu'il avait laissé en 1811, une clientèle d'élèves en italien. Il se heurte à une nouvelle concurrence, d'autres immigrés italiens, qui ne savent en fait faire qu'une seule chose, enseigner leur langue, et cherchent à l'enseigner. Donc, évidemment, d'Aponte a des titres qu'ils n'ont pas, son passé et sa gloire. Petite guérilla, pamphlets anonymes, on leur raconte des horreurs sur lui, souvent inventées, alors qu'il était si facile de donner les vrais. Il traduit Byron, ouvre une pension, importe des livres italiens, en fait cadeau à la Public Library de New York, où il constitue aujourd'hui la base du fonds italien, essaie de tenir son rôle d'ambassadeur de l'Italie culturelle du XVIIIe siècle civilisé, dans cette Amérique du XIXe, cette Amérique de rustres, de parvenus, d'intelligence et de formidable vitalité.
Questa è buona, lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per giradonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancora non sono 2 della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra Reporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio. Alfin vuole che io faccia un precipizio. E adesso, ehi, Leporello!
Chi mi chiama?
Non conosci il padrone?
Così non conoscessi?
Come birbo!
Ah, siete voi? Scusate.
Cosa è stato?
Per cagion vostra io qui quasi accoppato.
Ebbene, non era questo un onore per te?
Signor, bel dono!
Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
Ma cosa fate qui?
Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accaduti mi sonta che partisti di dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
Non esca il certo.
E dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia. Sai per chi?
Non lo so.
Per Leporello.
Per me?
Per te.
Va bene.
Per la mano, e se allora mi prende.
Ancora meglio.
M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mia caro.
Cette période est celle de la rédaction et de l'édition des mémoires, publiées en 1823 à 1827. C'est le principal document d'époque que nous ayons sur d'Aponte et sa vie. Et certains auditeurs se sont étonnés que j'y fasse, à vrai dire, peu d'allusions. Ils n'ont pas entièrement tort, sans doute, mais il faut dire que ces mémoires, dont la lecture est au demeurant distrayante, pêcheraient par toutes les inexactitudes, pour employer un mot bénin, qu'elles contiennent, si elles ne pêchaient surtout pas par tout ce qu'elles ne contiennent pas. Et je suis obligé de partager là la déception des biographes de d'Aponte qui relèvent que les mémoires, tout occupées qu'elles sont à dresser le tableau des 1000 avanies rencontrées par le héros contre des adversaires perfides et malveillants, ne disent rien des compositeurs avec lesquels Da Ponte travailla, Mozart avant tout, ni de l'empereur Joseph II, ni de ses conversations avec Gozzi ou Casanova, ni des civilisations traversées à Vienne, à Venise, à Londres, à New York, sinon des détails sans grande importance, ne parle ni de la Révolution française ni de Napoléon, ne donne pas le compte-rendu en détail de sa visite certainement intéressante avec Métastase, ne plaide même pas la cause, la très bonne cause de sa militance envers la culture italienne, rate leurs propos donc en grande partie. Da Ponte a été un témoin extraordinaire de 80 ans de civilisation européenne au moment où ce concept même se constituait, et ses mémoires sont moins intéressantes que celles d'un Casanova ou d'un Michael Kelly. Quel dommage! Da Ponte a 76 ans, un tournant dans sa vie. Ce connaisseur notoire de la littérature italienne, il vient de publier un commentaire de Dante, se retrouve professeur à l'université Columbia, dans une chaire créée à son attention, mais qui ne le rémunère pas. Il peut seulement y avoir des élèves privés. Mais il a peu d'élèves, car l'intelligentsia new-yorkaise n'est pas encore gagnée à la cause de l'italien, guère moins exotique pour elle que le turc ou le russe. Da Ponte n'aura que la ressource d'un poème. « Sum pastor sine ovibus, arator sine bovibus, hortulus sine flore, etc. Navite sine navibus, arbustus sine folis. » Je pense que le latin de Da Ponte n'a pas de mystère pour vous. Olympus sine stellis, venator, c'est un chasseur, sine cannibus, sacerdos sine templo, ce qui est un paradoxe pour Da Ponte, et enfin professor sine exemplo. Mais l'année 1825 est avant tout marquée par la contribution de Da Ponte au début de l'opéra italien en Amérique, grâce à la tournée qu'entreprend un seigneur de la scène lyrique espagnole, Manuel Garcia. Voilà que celui-ci fait le voyage pour conquérir le Nouveau Monde à l'opéra. Il emmène avec lui sa famille, ce qui est assez normal, mais ce qu'il est moins, c'est qu'il est lui-même ténor, qu'il est marié à un soprano assez médiocre, que son fils est baryton et au besoin ténor aussi, et que sa fille aînée s'appelle Maria, contralto, ce qui ne serait rien si elle n'allait pas un peu plus tard épouser un certain monsieur Malibran, Maria Malibran. Il a d'ailleurs une autre fille, seulement alors âgée de 4 ans, qui ne chante donc pas encore, et qui s'appelle Pauline. Elle épousera plus tard un certain monsieur Viardot, qui la rendra malheureuse comme des pierres, mais enfin, Maria Malibran, Pauline Viardot, Cela vous dit quelque chose. Je vous disais bien au début du premier épisode de ce feuilleton que Da Ponte était aussi contemporain de Chopin. Disons même que c'est le point de jonction tout trouvé entre Chopin et Mozart. Toujours est-il que Manuel Garcia, apprenant à son débarquement que la ville de New York héberge l'auteur des fameux livrets mozartiens, laisse éclater sa joie. Les deux hommes se rencontrent très vite, tombent dans les bras l'un de l'autre et entonnent de concert un opportun brindisi. Reste l'organisation des représentations. La compétence de Da Ponte, ravi de retrouver un rôle à sa mesure, va s'exercer dans les domaines importants que sont la publicité, la promotion auprès de ses propres élèves et l'accueil sous son toit dans sa pension des chanteurs italiens dont il sait mieux que personne ce qu'il leur faut et qu'il ne trouve pas dans ce pays de sauvages, du vin et des pâtes. Da Ponte se fera cuistot pour eux, à moins que Nancy accepte de mettre la main à la pasta. Les chanteurs sont épuisés par le voyage et l'on manque de tout. Il n'y a pas de chœur, sinon de méchants rassemblements amateurs. Les orchestres sont éthiques. Il n'y a, semble-t-il, sur tout le territoire américain qu'un seul oboïste correct, et il est à Baltimore. Il faut fabriquer des costumes et les membres de la troupe doivent y travailler eux-mêmes. Et les décors, et la salle qui n'existe pas. Ces débuts de l'opéra aux États-Unis seraient passionnants à étudier. Mais ils seront difficiles, il n'y a pas de public, pas de sponsor, pas de connaissance de la langue italienne, pas de culture européenne et musicale. Le 25 novembre a tout de même lieu la première de la saison lyrique, le Barbier de Séville, avec un orchestre de 25 musiciens. Grand succès avant tout le monde. On donnera ensuite d'autres Rossini, dont Otello, en le faisant alterner avec l'Otello de Shakespeare, que le grand Keane vient jouer. Ils avaient des idées pas absurdes, comme vous voyez, nos responsables de l'Opéra Bastille pourraient peut-être s'en inspirer s'ils avaient 3 sous. Je m'arrête. Mais le grand événement de cette première tournée lyrique aux États-Unis va cette fois intéresser directement Da Ponte. Il persuade en effet Garcia de monter Don Juan, son Don Juan, comme il disait. Garcia trouve l'idée bonne, mais que de difficultés. À commencer par l'Ottavio qui manque. Da Ponte s'efforce de le trouver, de le faire travailler, de le payer même. Il frétille comme un jeune homme, notre vieil octogénaire, qu'il faut se représenter dans sa rêverie peut-être, le soir de la première d'un donjon de Mozart au pays des Indiens. Vous l'imaginez, il est dans sa loge, entouré d'un bouquet de jeunes américaines ravissantes, ses élèves. Et il songe à tous ceux qu'il a connus, qui sont déjà dans les livres d'histoire et dans les encyclopédies. Joseph II, Salieri, Casanova, Mozart, tous disparus, tous appelés, tour à tour, puissants ou non, par la statue du commandeur. Da Ponte est heureux, la représentation se passe assez bien. 23 mai 1826, première d'un ouvrage de Mozart sur le sol américain, sous la direction d'un Français d'ailleurs, Denis Étienne. 1826 et non 1825, comme l'écrit sans sourciller le seigneur des dictionnaires musicaux, le célèbre Groves, toujours impeccable. Vous voyez qu'il n'est pas besoin d'être producteur de France Musique pour dire parfois des bêtises. Don Juan est reçu avec enthousiasme. J'ai sous les yeux une affiche qui vaut son pesant de coconuts et qui annonce une reprise de ce Don Juan, sans doute un peu à peu de distance de la première, une reprise d'ailleurs en langue anglaise et avec d'autres chanteurs que ceux de la troupe de Garcia. Mais les prodiges annoncés devaient être les mêmes la première fois et nous éclairent singulièrement sur ce qu'on pensait devoir être susceptible d'attirer le public américain. Don Giovanni ou Or the Spectre. Donc c'est le commandeur qui s'appelle The Spectre, avec une nouvelle mise en scène de M. Evers, The Music by Mozart, alors adapté à la langue anglaise par un certain Bishop, distribution, avec With a Spanish Bolero, je ne sais pas exactement à quel moment de l'œuvre, et un peu plus loin, A Magnificent Saloon. Le saloon en question doit être, j'imagine, la pièce qui voit la mort, l'enfouissement, l'engloutissement de Don Juan dans les enfers, car tout de suite après on dit The Spectre, point d'exclamation, de nouveau avec des demons, et ils se saisissent de Juan, says Juan, The Fabric of the Palace Tortures, The Spirit of Don Pedro, je ne sais pas exactement de quoi il dit, c'est Don Pedro, c'est le commandeur, Ascends Beyond the Ruins, in a pale ethereal mist, dans une sorte de brouillard éthéré et pâle. Infernal Regions, souligné en grosses lettres capitales. Bref, c'est un spectacle digne du Châtelet ancienne manière. Imaginons alors que le rideau qui va se baisser sur ce donjon américain en 1826 va quasiment être le même que celui qui va se baisser pour la vie de Da Ponte lui-même. Il ne faut pas oublier toutefois qu'il reste à Da Ponte 12 ans à vivre. Jamais je n'arriverai à bout, je crois. Et ce ne sont pas 10 années vides. Voilà Da Ponte gagnant $500 à la loterie, qui se dépêche d'acheter des livres italiens pour en nourrir la bibliothèque de l'Université Columbia. Da Ponte qui a repris goût à la chose lyrique et fait venir d'Europe une nièce qui promet, dont le talent n'est pas à la hauteur de ses espoirs. Da Ponte en son grand âge, plus vraiment dans la course pour séduire, mais encore dans celle pour flirter avec ses jolis élèves qu'il appelle par des noms de fleurs. D'Aponte octogénaire qui voit avec douleur mourir sa jeune femme de 60 ans en décembre 1831. D'Aponte qui se fait tirer l'oreille pour réintégrer la foi catholique de façon visible et ne souffle mot de sa prêtrise, toujours valable. D'Aponte ressaisi par le démon du théâtre et montant une tournée pour son compatriote Jacopo Montresor qui ne rapporte que des dettes. Et sans qu'un seul des trois Mozart, D'Aponte, fût monté. Et le dernier exploit de D'Aponte, stupéfiant et tellement logique en même temps, s'avisant qu'il a peut-être jusqu'alors mis, selon la jolie expression anglaise, « the cart before the horses », littéralement la voiture devant les chevaux, ce qui est plus citadin que ce que nous faisons parfois dans nos campagnes, il se lance dans la construction d'un opéra, tout simplement. Il ameute les autorités new-yorkaises, trouve un terrain, réunit des donateurs, fait engager un architecte et des décorateurs, se démène, ennuie tout le monde, tanne les financiers. Quel moyen de résister à la passion d'une gloire insupportable de 84 ans qui a mangé dans la main de l'empereur Joseph II au siècle précédent. Et le miracle a lieu. Au coin de Church Street et de Leonard Street s'élève un bâtiment superbe, vaste, tout de bleu, de blanc et d'or décoré, à l'acoustique remarquable. L'inauguration a lieu le 18 novembre 1833 et je trouve évidemment qu'on aurait pu avoir l'élégance d'y donner un D'Aponte. Mais n'oubliez pas qu'on ne jouait alors pas ou peu les opéras de Mozart, et surtout pas Cosi ou Les Noces. Non, c'est l'inévitable Rossini qui, à cet honneur, avec sa gazzaladra, sa pivoleuse, accueille enthousiaste. Et une saison qui s'annonce bien avec beaucoup de Rossini, naturellement, et aussi, par exemple, le mariage secret de Cimarosa. Déficit important comme il se doit en fin de saison. Deuxième saison en 1834-35, déficit accru. En 1836, on transforme la destination de la maison qui deviendra un National Theatre, donc opéra plus théâtre, comme dans les théâtres allemands. Puis le théâtre va brûler, destination naturelle de ce genre d'édifice à l'époque. Il faudra attendre 50 ans pour qu'en 1883, New York retrouve un théâtre d'opéra. On l'appelle le Met. Les dernières années de D'Aponte se passent chez l'un de ses fils. Il continue d'écrire, d'être extraordinairement vivant, et il faut bien le dire, légèrement enquiquinant, si vous me passez l'expression. Il se plaint de l'ingratitude du monde. Moi, le créateur du langage italien en Amérique, le professeur de plus de 2000 personnes dont les progrès ont étonné l'Italie, le poète de Joseph II, l'auteur de 36 drames, l'inspirateur de Salieri, de Weigel, de Martin, de Martini Soler, de Winter et de Mozart. Après 27 années de dur travail, je n'ai plus un seul élève. À près de 90 ans, je n'ai plus de pain en Amérique. Il résiste à la sollicitation de ceux qui voudraient le voir venir à complète récipiscence vis-à-vis de l'Église catholique. Il estime avoir la conscience suffisamment en paix. Vient alors le moment du tableau final. Il représente D'Aponte au terme presque d'une courte maladie, recevant avec noblesse l'hommage d'une théorie de ses fidèles. Le grand vieillard, 89 ans, est à demi assis dans le lit, le buste relevé par un large oreiller et la tête fameuse, tout enneigée, surplombe cet échafaudage. Un témoin raconte. C'était un de ces après-midi de fin d'été quand la lumière douce des couchants annonce l'approche de l'automne. La tête magnifique du vieux poète reposait sur une mer de coussins et ses yeux conscients se tournaient encore vers chacun de nous. À côté, de nombreux compatriotes étaient réunis dans la pièce quelques membres de l'ancienne compagnie d'opéra, agenouillés autour du lit pour recevoir du barde mourant une bénédiction d'adieu. On reconnaissait le visage fin de Fornasari, le profil délicat de Baggioli. Tous pleurèrent quand le patriarche leur rendit d'un salut sincère et affectueux et appela à la protection de Dieu sur leur commune patrie. Le médecin qui suivait debout les derniers vacillements de cette flamme et un groupe de femmes effrayées complétaient la scène. Elles ne différaient guère de ces tableaux bien connus qui représentent les dernières heures de Napoléon. Da Ponte meurt le 17 août 1838 à 9h du soir. Pour lui, c'est un autre rideau qui se lève ce soir-là. Ses funérailles prennent place 3 jours après dans la cathédrale Saint-Patrick, alors construite au cœur de ce qu'on appellera plus tard Little Italy. Cortège fastueux de tout ce que New York comptait de célébrités mondaines que le poète avait fréquentées. Le tout au son du Miserere d'Allegri. Puis il est enterré dans le cimetière catholique de New York. Et là, on perd sa trace, on perd la trace de sa tombe. 50 ans plus tard, c'est en vain que le musicologue Cray Bill s'efforcera de la retrouver. Voilà bien qui, un demi-siècle après, scellait aussi les destins conjugués de Wolfgang Amadeus Mozart et de Lorenzo da Ponte.
Mangia il male e mal dormir. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servire.